Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est votre énervé qui voit double chaque soir. Je vous explique, ça commence à 18h en avant-première sur franceinter.fr et donc en podcast. Et puis ensuite, ça recommence, mais c'est à 22h jusqu'à minuit à l'antenne, comme tout le monde sur cette radio. Ce soir, une émission sélection officielle Cannes avec nos deux invités. 2019, Justine Trier s'expose au festival avec Sibylle, portrait d'une romancière psychanalyste vampirisée par une jeune actrice en perdition et qui va se retrouver propulsée sur le tournage d'un film psychodrame à Stromboli, sortie du film demain en salle. 1973, Jerry Schatzberg, vous receviez la Palme d'Or pour L'Épouvantail, manifeste du cinéma indépendant américain. Aujourd'hui, vous êtes en France pour une exposition de photographie Off-Ground Concourse, c'est au domaine de Chamarande, au programme de la mode Dylan, Zappa et les autres. Jerry Schatzberg, bonsoir.
Bonsoir.
Les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault, c'est au programme aussi pour tout savoir du meilleur de la musique à venir, c'est-à-dire donc dès demain.
L'indie pop du Canadien Mormor, la gangsta pop des Brésiliens Daldo et la nouvelle chanson de Bastien Lallemand.
Et dans le NRV la suite, Internet, 30 ans déjà, ou plutôt le web. Hein, le web,
ah, c'est pas la même 30 chose.
Ans déjà, non, c'est pas la même chose. L'utopie est devenue un cauchemar.
Bah, se pourrait-il que. Alors, ouais. Bien sûr, nous ne jugeons pas, nous ne savons pas.
On ne sait rien avant d'avoir interrogé nos trois invités.
Je sais que je ne sais rien, disait Socrate. Moi, c'est ma ligne de conduite. Et donc, on va nous interroger, nous, vous, moi et les invités, qui sont, je dois dire, particulièrement brillants, mais c'est tout le temps comme ça. Il y a Quentin Jardon qui arrive de Bruxelles et qui vient nous parler d'un livre fascinant sur les pionniers de l'Internet, qui s'appelle Alexandria. Antoine Jacquier arrive de Suisse. Non, mais c'est un truc international. Lui, il a écrit un roman sur un futur épouvantable à cause du web.
On a payé tous les billets.
Enfin, bien sûr, Simili Love. Karine Mauvillier arrive de Bourgogne, ce qui est aussi loin.
Vu les retards de train, c'est encore pire.
C'est très dangereux. Et elle a publié Cyber Minimalisme.
Le NRV, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Sibylle, nouveau film et bingo, retour à Cannes pour vous, Justine Trier, en sélection officielle. Ça y est, vous devenez inhabituée. Trois films, trois Cannes. La bataille de Solferino en 2013, c'était à l'acide. Victoria, déjà avec Virginie Efira en 2016, ouverture de la semaine de la critique. Le premier souvenir de Cannes pour vous, c'était quoi? Ça remonte peut-être même avant la sélection.
Non, la première fois que j'y suis allée, c'était pour la bataille. Et j'ai un souvenir... forcément ultra ému parce que c'était l'acide et parce que du coup c'était, moi j'avais pas du tout l'idée qu'il y aurait une telle exposition et c'était évidemment la projection où tout le monde découvre le film ensemble.
L'acide, on rappelle ce que c'est?
Oui, c'est une association qui permet à tous les gens qui ont moins de 40 ans d'exister à Cannes, on va dire, pour résumer un peu, qui s'occupe des films qui ne sont pas du coup en sélection ni officielle, ni à la Caserne, ni à la semaine de la critique. Voilà.
Mais qui leur assure une certaine visibilité. Exactement. Aujourd'hui, sélection officielle. Il y a 4 réalisatrices cette année en sélection officielle. La parité voulue encore par le collectif 50-50 dont vous faites partie, c'est pas encore ça. L'égalité des salaires, la représentation des femmes dans tous les postes, ça vous le mettez en œuvre dans vos films?
Alors, je sais pas si je suis la meilleure bonne élève pour mon équipe. J'ai pas encore fait le calcul de ça, mais par contre, c'est des questions qui évidemment m'importent et vont de plus en plus m'importer parce que je pense qu'on peut pas nier en fait les chiffres et ce collectif justement 50-50 se base essentiellement là-dessus. Regardez les chiffres, regardez les statistiques juste de combien de femmes ou à quelle position. Et donc forcément, c'est quelque chose qui nous importe tous.
Sibylle, un portrait de femme, Virginie Efira dans le rôle titre. C'était déjà le cas, on le sait, dans Victoria. Un jeu de double à l'écran se profile, c'est comme ça que vous le voyez? Comme pour d'autres réalisateurs. On a plus vu ça d'ailleurs du côté des réalisateurs qui s'identifiaient à leur acteur, etc. Et vous?
Oui, alors je sais, c'est très compliqué de savoir exactement ces choses-là parce que je peux vraiment pas dire que ce soit une extension de moi-même, mais par contre, c'est sûr que c'est pour moi une chose que j'aime.
C'est la vérité.
Non, c'est quelqu'un qui évidemment m'inspire énormément et avec laquelle je me sens encore plus à l'aise maintenant pour aller dans des terrains plus complexes, plus sombres. Donc voilà.
Beaucoup plus exposé, on va y revenir dans quelques instants. Le rôle a été écrit pour elle, avec elle en tête, celui-ci?
Oui, assez rapidement. Pas au début, mais oui, je dois avouer. Ouais.
À quel moment ça intervient, justement?
Moi, je m'interdis de penser à des acteurs avant d'écrire. Pour une bonne et simple raison, c'est que je pense que le scénario, c'est pour moi de plus en plus important.
Ah bah là, vu l'état du scénario, en effet, hyper complexe. On va parler du scénario tout à l'heure parce que je me suis demandé, mais c'est un défi d'écriture qu'on se lance, ouais. Alors donc le scénario.
Donc pour moi, je mets de côté vraiment les acteurs avant. Et puis j'avoue, la plupart du temps, il y a les visages nous viennent en tête. Sandra Hüller est venue très tôt aussi, et Virginie évidemment est revenue parce que très vite on a besoin d'entendre une voix. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée, en tout cas, de ne pas écrire juste pour quelqu'un comme ça, comme quelque chose d'un peu capricieux. J'aime bien l'idée qu'on soit vraiment sur une matière très écrite, quoi.
Alors, deux héroïnes avec des prénoms très allégoriques, Sybille, Victoria. Vous, on vous a expliqué pourquoi on vous a appelé Justine ?
Alors, beaucoup de gens pensaient que c'était pour ça, des noms, c'était pour Laurence Durel. Mais, je me suis beaucoup fait draguer dans ma vie.
Pour Sade.
Pour Sade.
Vous avez lu l'un et l'autre ?
Non, j'avoue que j'ai jamais lu ni Justine, ni Laurence Durel, ni Sade. Donc voilà.
Aucune curiosité par rapport à ça.
Bah, je connais un peu le dessin de Justine dans Sade, j'avais pas forcément
envie de le ressembler, ça on peut le comprendre. Et le destin de Justine chez Laurence Durel.
Ouais, j'avoue, j'ai pas lu le Quatuor d'Alexandrie, mais peut-être que ça viendra.
Sybille, on va entrer dans le film tout à l'heure. C'est une romancière devenue psychanalyste qui veut à nouveau écrire et qui donc va laisser tomber ses patients. Je lisais au départ qu'un film vous avait marqué, c'est Une autre femme de Woody Allen. Qu'est-ce que votre histoire, votre héroïne lui doit à ce film ? Donc, d'abord, de quoi ça parlait ce film ?
Alors, je pense qu'il lui doit beaucoup. En fait, c'est un film qui m'a hantée pendant un moment. C'est un film qui raconte un truc très simple, c'est-à-dire une femme interprétée par Gina Rowlands qui essaye de faire le vide dans sa vie pour écrire et pour trouver un petit espace pour écrire, pour être au calme. Et elle loue un petit appartement dans lequel elle entend la voix de quelqu'un à travers les murs, qui est Mia Farrow, qui est jouée par Mia Farrow. Et en fait, c'est une thérapie qui se passe à côté d'elle, et cette femme, la voix de cette femme va l'interpeller, va bousculer, va faire un peu imploser sa vie, son couple, son existence. Et ce film a complètement... Alors après, évidemment, mon film est très très différent, mais en tout cas, la base, le socle, a été vraiment... Ça, c'était comme une forme de... Comme ça, de matrice, quoi.
De motif, oui, qui permettait de déclencher,
qui me restait,
le film.
Voilà.
Vous avez déjà fait une analyse ?
J'avoue, oui.
Il y a pas de... C'est bizarre, ce terme d'avouer faire une analyse. On fait une analyse.
Non, mais c'est quelque chose d'assez privé.
Oui, bien
mais
sûr.
Oui, j'en ai fait, mais pas actuellement. Ouais.
Lacanienne ou freudienne?
Lacanienne, j'en dirai pas plus.
En effet. Alors, pour faire plus amplement connaissance, on vous a demandé quelques sons. J'en ai rajouté un. Un son d'abord, une chanson. Qu'est-ce qu'on entend, Justine Trier ?
Alors, c'est Daft Punk, Lose Yourself to Dance, et c'est une chanson que j'ai écoutée beaucoup trop.
Ça veut dire quoi ?
En boucle. Mais je sais pas, je pense que c'est une des rares chansons qui me. Je trouve qui met dans un état de. de joie, je sais pas. J'arrive pas à décrire exactement ce que ça produit, mais j'adore cette chanson et j'adore le clip. De la chanson qui vient, je crois, d'une chanson des années 70. On voit des gens danser dessus. Enfin bref, je suis complètement obsédée par cette chanson depuis 6 ans. Voilà.
Vous dansez dessus ?
Oui, ça m'est arrivé.
Vous aimez danser ?
Ça m'arrive, oui.
Alors moi, j'ai choisi une autre chanson parce qu'on l'entend dans le film, je ne dirai pas à quel moment. Orbison avec ce titre, qu'est-ce qu'il représente pour vous, pour qu'il soit à un moment du film, et on ne révélera pas à quel moment, Justine Trier.
Je n'arrive pas vraiment à exprimer, c'est une chanson qui a été trouvée très tard en fait pour le film, mais il y a une espèce de chose qui me touche énormément, cette espèce de prophétie comme ça, comme quoi le futur effacerait un peu le passé, une espèce de sous Elvis, enfin je sais pas, c'est Roy Orbison me touche beaucoup.
Et enfin, un son que vous nous avez demandé, un bruit de respiration. animal. Un chien, bruit des respirations de chien pour vous, Justine Trier.
Non, mais j'aime beaucoup les bêtes. Oui. Particulièrement les chiens, mais je sais pas si je peux vraiment analyser ça. Je trouve que un chien dans un film,
Je me souviens de Victoria, la scène où le chien arrive pendant le procès, ouais.
Oui, effectivement, il y a ça aussi dans la bataille aussi. J'ai l'impression. Alors malheureusement, mettre un chien dans un film ne présage pas forcément de faire un bon film, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est toujours un partenaire intéressant au cinéma à filmer.
Il y en a pas là.
Et non, justement, est-ce que ça va me porter malchance?
On verra ça dans quelques jours. Sans sommeil de Cléa Vincent qui se poursuivent sur scène au Carreau du Temple à Paris le 27 juin, à Solidays le 23 juin. La programmation, bien sûr, insomniaque pour Jean-Baptiste Audibert.
Le nouveau rendez-vous.
Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire, en fait, je suis obsédée par ça.
Laurent Goumard.
Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre, c'est impossible. Je suis enceinte de 2 mois, je peux pas le garder. J'ai tellement peur, je peux pas lui dire.
Sur France Inter.
Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos à l'affiche de Sybille, votre nouveau film, Justine Trier, un portrait de femme au pluriel, en fait, car le film croise plusieurs histoires. Celle de Sybille, d'abord. Elle est mariée, elle a 2 enfants, un passé de romancière, aujourd'hui elle est psychanalyste. Elle veut se remettre à écrire et pour s'en donner les moyens, elle va arrêter le divan, ou presque, car elle rencontre Margot, jeune actrice complètement perdue, enceinte, ne sait plus si elle doit garder ou pas son enfant. Le père est un acteur connu avec lequel elle doit jouer dans un film dirigé par sa femme. Et c'est Mika, la réalisatrice, en plein tournage sur une île volcanique, et il n'y a pas que l'île qui le soit. Sybille va se retrouver au centre d'un film psychodrame et tout va basculer, bande annonce.
C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom.
Tu liquides tous tes passions pour écrire, mais tu prends cette fille.
On a tous un faible pour certains d'entre eux, non?
Arrête d'écrire sur elle.
J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède.
Il te manque?
L'intensité de l'amour qu'on avait l'un pour l'autre me manque, oui.
Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple. Avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter.
Non, c'est impossible, ça.
Why did you cast her if you knew that she was Lucy Gore?
I figured it was just a petite histoire.
Action!
I would just have to sit back and watch reality destroy things.
Contrôle-toi, s'il te plaît.
Ne me parle pas. Parle à Sybil.
Sybil, dites-lui qu'elle arrête de me faire mal volontairement. C'est pas possible.
Ne soyez pas contre moi par principe. Like a
motherless child. Is that a joke?
I'm done.
Mika.
Mika, c'est la réalisatrice qui vient de plonger, on vient de l'entendre. Ça vous est arrivé de plonger sur un tournage, métaphoriquement bien sûr, Justine Triet ?
Oui, je crois, malheureusement. Hein.
Ah ouais ? À quel moment, à quel tournage ?
Le dernier. Il y a toujours un moment sur un tournage, j'ai l'impression, où il y a une forme de vertige, où on perd un peu pied et puis on revient, mais c'est toujours c'est jamais très grave.
À quel moment ça s'est passé ? Sur l'île ?
Sur l'île, c'était impressionnant. Ouais.
Stromboli ?
Oui, Stromboli. Puis en plus, l'UE est vraiment complètement propice à ça. Et puis en plus, le tournage était dans l'ordre des chronologiques. C'était au début du film et on était très nombreux. Donc beaucoup de gens à gérer, beaucoup de gens sur le plateau. Donc ça peut aller vite.
Surtout si on est tous sur une île, on sait bien ce que cela peut créer comme psychodrame. Donc un film qui travaille plusieurs motifs. La maternité, l'hérédité, la question du milieu social, la trahison amoureuse, avec différentes temporalités. Sybil aujourd'hui, Sybil dans le passé. Avec un premier amour, une mère alcoolique, on se dit waouh, quel scénario, l'écriture du scénario, combien de temps pour un tel scénario très complexe, j'imagine, dans la façon de le construire.
En fait, pas tant de temps que ça. Enfin, je dois avouer que j'aime bien écrire assez vite. Je suis pas dans un état toujours très bon quand j'écris, parce que je suis impatiente et tout. Donc, et puis j'avais des délais très précis pour les comédiennes. Donc, j'avais pas vraiment le choix pour la date de tournage. Et finalement, j'ai écrit jusqu'au moment de tourner quasiment, ce qui m'arrive rarement. C'est-à-dire que je réécrivais jusqu'à la veille des scènes. Donc, ça a pris à peu près un an, un peu moins d'un an. Voilà.
Ouais, c'est pas non plus énorme.
Non, par contre, c'est beaucoup d'énergie quand même. J'ai pas travaillé seule cette fois-ci, j'ai travaillé avec Arthur Harari qui m'a vraiment aidée pour la structure. Et c'est vrai que la structure est très libre, donc du coup, elle doit être tenue parce que sinon ça ne fonctionne pas. Enfin, on peut pas arriver à...
Il y a beaucoup d'histoires.
Ouais, beaucoup de personnages.
Beaucoup de personnages, beaucoup de temporalités.
Voilà, mais les choses doivent se répondre, doivent avoir une logique interne. Donc ça ne peut pas être juste un joyeux chaos, il faut qu'il y ait une forme de chose qui tienne comme ça le récit. Et donc voilà, ça a pris un petit peu de temps. Ouais.
On pense déjà au montage qui va être complexe parce que le montage participe ici de la dynamique véritablement du film. Le montage est très spécial. On pense aussi en termes de montage quand on écrit un tel scénario.
Oui, forcément, ouais, j'y pense un peu.
On sait que ça va pas être linéaire, quoi.
Oui, après, j'avoue, le film est très fragmenté. Il était déjà fragmenté à l'écriture comme ça. Après, les flashbacks ont pris une autre durée, une autre taille, en fait, au moment du montage. Et ça, on peut pas le prévoir tant que ça au départ.
Alors, il y a la question de l'hérédité, de la filiation qui est posée au centre. Elle est posée par Sybil, par sa petite fille qui ne connaît pas son père, par la sœur de Sybil qui est hantée par sa propre mère, ou par Margot, donc la patiente qui dit venir d'un milieu de merde. Et vous, de quel milieu vous venez ?
Oh, moi, je pense que je viens d'un milieu middle class, comment on dit, pardon,
middle class, oui, ouais, classe moyenne.
Pardon, classe moyenne. Pas du tout de ce milieu du cinéma. Mais c'est vrai que je suis particulièrement touchée par les figures comme ça pas forcément que féminines, aussi masculines, mais de gens qui sont obsédés par l'idée de se surclasser, d'essayer de dépasser son origine sociale. C'est quelque chose évidemment qui est très commun, enfin qui est très romanesque et qu'on voit dans plein de livres, dans plein de films, mais c'est quelque chose qui me fascine assez, effectivement. J'avais une grand-mère comme ça qui nous parlait tout le temps de ses origines et comment elle s'était extirpée de ses origines. Je sais pas, c'est des figures qui m'intéressent et c'est vrai que le film est parcouru par vraiment ce double comme ça d'Adèle qui vraiment a une espèce de...
Adèle Exarchopoulos, donc qui joue Margot.
Voilà, qui vient d'une province un peu quelconque et qui rêve en fait de faire partie du milieu du cinéma et qui fait un peu écho au personnage de Sybil, incarné par Virginie, qui elle-même se rêvait écrivain et qui elle a en haine sa mère et son le milieu d'où elle vient.
Alors, cette question de la filiation, elle se pose comment en termes de cinéma, par exemple, qui serait votre père de cinéma ou votre mère de cinéma, Justine Triet?
Mère de cinéma, père de cinéma. Vous voulez dire dans quel sens quand vous dites mère, pardon.
C'est vous qui allez élaborer la réponse.
Ah, c'est compliqué cette question-là. Il y a tellement de gens, c'est très difficile souvent pour moi de répondre à ce genre de questions. Je dirais sûrement Eustache. Il y a quand même, évidemment, je me souviens de le jour où j'ai découvert La Maman à la Putain, où j'ai l'impression que ma vie a changé. C'est rare quand même de ressentir ça devant un film. J'étais jeune étudiante aux Beaux-Arts, mère de cinéma.
Donc le père de cinéma, ça serait un réalisateur et un type de cinéma, et mère de cinéma.
Mère de cinéma, c'est compliqué. On a envie de parler de Varda, peut-être.
Ouais,
même si...
parce qu'elle fait l'affiche du film. C'est attendu, mais sinon.
Mais peut-être Vanda, peut-être Barbara Loden, quand même, qui était une figure comme ça quand j'ai découvert. Puis je suis quand même fascinée par sa vie avec Kazan, tout ce qu'elle a pas fait comme film, tout ce qu'elle aurait dû faire, cette espèce de figure comme ça pionnière un peu. Mais après, je peux pas dire non plus que son film m'est plus inspiré que ça. Mais en tout cas, c'est une figure qui m'impressionne même en tant que comédienne.
Vous avez tourné sur Stromboli, véritablement déjà un lieu de cinéma, hanté par le cinéma. Vous aviez des images qui vous sont revenues ?
Alors franchement, en toute honnêteté, quand on tourne là-bas, il faut, en toute humilité, honnêtement, je ne voulais même pas m'embarrasser du, je ne voulais même pas rentrer dans une forme de comparaison possible. Moi, je me sers vraiment de cet endroit comme d'un endroit de... mythique, presque embarrassant, presque trop comme ça.
Qui est un monument de cinéma en lui-même. Ouais.
Complètement. Et je m'en sers comme décor, comme je me servirais d'une fête foraine ou d'un endroit. Voilà. Après, je m'en amuse parce que la réalisatrice en question qui tourne son film, elle a une espèce de, comme ça, de désir de revenir sur les terres de Stromboli et faire un mélo là-bas. Évidemment, moi, ce qui m'amusait, c'était de construire de faire exploser mon film sur un volcan, d'investir ce lieu, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, j'arrive pas à envisager une comparaison possible avec le film mythique de Rossini.
Stromboli, ça évoque bien sûr aussi la violence des passions. Le sexe est très présent dans le film, frontalement. Oui. C'est-à-dire que vous filmez des scènes de sexe sans détour. Comment vous dirigez justement ces scènes? Vous êtes où? Vous parlez? Comment on voit la réalisatrice en train de filmer une scène de sexe?
Je parle tout le temps. Je parle tout le temps, même si bien que c'est assez pénible au moment où on monte le film, parce qu'on entend beaucoup plus ma voix que les respirations des acteurs.
Du style, caresse là, ouvre la bouche, ferme les yeux,
voilà.
La tête en arrière,
très dirigiste,
vous chorégraphiez. Ouais.
Extrêmement dirigiste, parce qu'en fait, d'une part, les acteurs me le demandent, surtout là, en l'occurrence,
Virginie le
réclamait, ce que je peux très bien comprendre, c'est-à-dire que c'est l'improvisation dans ce genre de scène est très embarrassante pour les acteurs. Et puis, c'est vrai que... je me suis un peu libérée sur Victoria, sur cette question-là, et je me suis dit, finalement, c'est des scènes souvent qui font peur avant de les tourner un peu à tout le monde. Et
à vous aussi?
Honnêtement, non, pas sur ce film, parce que c'était tellement important, c'est tellement au centre du film, le désir. Autant Victoria, voilà, c'est un film qui parlait beaucoup de sexe, mais il fallait rien en voir. Là, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire qu'on en parle très peu, en tout cas pas le personnage de Sybille, et il fallait vraiment qu'on voit la passion qu'elle vit avec le personnage incarné par Neil Schneider. Et donc du coup pour moi c'était des scènes qui devaient être vraiment il fallait penser ce qu'on y voit en fait, et donc ça a été vraiment pensé, on a vraiment réfléchi avant de les tourner, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'ils vont se faire. Et c'était pas juste voilà, ils vont faire l'amour, ils s'embrassent.
Non, il y a des gestes très précis qui reviennent d'ailleurs
et qui font écho d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses, bon après faut pas non plus analyser le film, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui reviennent plus tard sur Stromboli entre Adèle et Gaspard Ulliel, et qui sont pensées comme étant presque en reflet de ce qu'on voit au début du film entre Virginie et Nils.
Est-ce que vous auriez demandé à Virginie Efira la même chose quand vous avez tourné la première fois avec elle, Victoria, au niveau des scènes?
Non, c'est sûr.
Il faut connaître une actrice, avoir toute sa confiance pour pouvoir arriver à ça.
C'est sûr que ça aide. Et puis le fait que je sois peut-être une femme, alors ça me permet moi d'être plus impudique, de lui demander plus de choses. Je sais pas. Non, je pense pas en même temps, parce qu'elle vient de tourner avec Verhoeven et je pense que c'est vraiment incroyable. Donc j'ai rien dit, j'enlève ce que je viens de dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça aide. Et après, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut quand même le embarquer ces gens, tous ces gens-là le matin, que c'est pas forcément le bonjour et que ça va durer 7-8 heures, et c'est quand même des journées très particulières.
Juste une dernière question qui fait référence à votre passé de plasticienne et de peintre. On voit beaucoup de tableaux dans le film. Enfin, je suis toujours, ou alors c'est moi qui suis complètement obsédée, il y a beaucoup de tableaux dans le film. On voit les vôtres?
Non, pas du tout, mais plein d'amis à moi, qui soit des anciens élèves des Beaux-Arts, soit des artistes que je connais, en l'occurrence... Il y a Bastien Vivès aussi qui a prêté des dessins pour ce film. Thomas Livillan, un photographe aussi, Cédric Sartor. C'est vrai que, alors moi, vraiment, je suis de plus en plus obsédée par ça. Peut-être que je l'étais moins avant, mais je trouve que c'est pas anodin, finalement, ce qu'on montre. Comment est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on montre dans une image?
On regarde tous les titres des livres qu'elles peuvent lire, ce qu'il y a sur les murs,
C'est des choses qui m'importent de plus en plus. Mais même à Stromboli, je sais que, on s'est beaucoup questionné avec la déco sur qu'est-ce qu'on allait montrer. Il y a des peintures comme ça de Stromboli en éruption. Vraiment, moi, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et des fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose dans le cinéma qui est un petit peu mis de côté ou alors qui est anecdotique. Je trouve que, en tout cas, pour moi, c'est de plus en plus important.
Vous faisiez quoi comme genre de peinture? C'était quoi? Je sais que c'était de la peinture figurative.
Ouais.
Qu'est-ce que vous peignez?
Oh, c'était vraiment nul. C'était vraiment pas intéressant. Non, j'étais une peintre très médiocre. C'est pour ça que j'ai arrêté.
Et que vous êtes devenue cinéaste. La photographie est toujours là. Sibylle, c'est à la fois un film et donc une exposition. Sortie en salle vendredi avec la montée des marches. Vous avez prévu tout, la robe, le smoking, tout?
Quasiment, ouais.
Robe ou smoking?
En fait, franchement, j'ai les deux, donc je sais pas ce que je vais...
Jusqu'au dernier moment. On verra ça vendredi prochain.
Voilà.
Merci à vous, Justine Trier.
Merci. And the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Un inédit de Lana Del Rey avec cette reprise du groupe Sublime.
France Inter.
Grand Prix international du Festival Cannes 1973. Esseco, Scarecrow, Épouvantail.
Le nouveau rendez-vous.
Schatzberg, États-Unis, et The Hireling, la méprise de Alan Burgess.
Laurent Goumard.
Alors, Bien sûr, on va parler photo, mais d'abord retour en 1973, Cannes, Palme d'Or pour votre film L'Épouvantail, un road movie avec Al Pacino et Gene Hackman. C'était Lorraine Bacall qu'on vient d'entendre, qui vous remettait la palme. Un souvenir de cette soirée, Jerry Schatzberg.
Yeah, I don't think it was Lorraine Bacall.
Lorraine Bacall, vous êtes sûr? Je suis pas sûr, moi.
I think I actually got the award from
le prix
m'a Diana
été
Ross.
Donné par Diana Ross.
Ah, c'est Diana Ross.
Yeah, it was Ingrid Bergman.
Ingrid Bergman a fait l'annonce, puis Diana Ross m'a donné le prix.
La même année, c'était La Maman et la Putain, La Grande Bouffe. Vous, vous avez eu la palme, ça vous a surpris?
Were you surprised to get the award?
Yeah, I didn't think. I was really surprised.
Oui, très surpris.
I hoped that the actors would get it.
J'espérais que les prix seraient remis aux acteurs.
You know, in those days, we didn't. They announced the.
À cette époque, on annonçait les prix l'après-midi.
Ah ouais.
Nous, on était partis sur une île. On était partis manger. Et Pierre Messienne nous a envoyé un assistant pour nous dire qu'on avait gagné la Palme d'Or. J'étais sans voix. Et moi, je pensais qu'il y aurait un réalisateur italien qui remporterait la Palme
d'Or. Marco Ferreri pour La Grande Bouffe. Tout le monde pensait.
Oui, je voulais pas dire le nom, mais bon. Donc lui, il avait sa cour autour de lui, au bar, en permanence. Et moi, j'étais un petit peu timide. Moi. Et puis, après le déjeuner, j'arrive au débarcadère. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, c'est pas Marco Ferrari, c'est toi. Voilà.
Le grand héros de 1973, c'était vous. Aujourd'hui, une exposition photo au domaine de Chamarandes. C'est un retour à vos débuts puisque vous étiez photographe avant de passer derrière la caméra vers l'âge de 40 ans. D'ailleurs, un mot d'abord sur ce changement de carrière. La photographie, ça ne suffisait plus pour passer derrière la caméra et devenir réalisateur, Jerry Schatzberg.
L'establishment
m'embêtait un petit peu. Vogue m'avait demandé de faire des photos de collection. Et mon mannequin préféré, qui du reste est la source d'inspiration de mon tout premier film, eh bien, cette mannequin m'a beaucoup aidé quand j'étais assistant d'un autre photographe. Nous sommes liés d'amitié, elle me laissait lui prendre des photos sans me faire payer. Puis, lorsqu'est venue l'époque de faire la collection avec elle, ce que je voulais faire vraiment, le magazine a dit, non, cette mannequin-là, on la voit trop, nous voulons une autre mannequin. Et j'aimais pas cette idée d'avoir une nouvelle personne. Moi, je crois qu'il faut toujours avoir la meilleure personne et pas forcément une nouvelle personne. Donc, je me suis dit, comment... À l'époque, je pensais pas au cinéma, mais je pensais que j'allais faire des photos en laissant le soin à quelqu'un d'autre d'écrire le texte. Il y avait deux réalisateurs à Hollywood qui m'ont appelé pour me demander si cela m'intéresserait d'être consultant sur un documentaire sur les femmes les plus belles du monde. Et immédiatement, j'ai dit, pensez-vous, bien sûr.
C'était son métier.
Yeah. Bref, je vais à Hollywood, oui. Et j'ai fait travailler sur la première partie avec Antonia Fraser, magnifique femme. Donc, non seulement une belle plastique, mais une personne formidable. Beaucoup de cœur, beaucoup d'esprit. Et ce film, ce travail, m'a beaucoup plu, moi, en tant que consultant. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des films, mais il fallut 4 ans pour que je me lance véritablement.
Donc aujourd'hui, ça donne une exposition photo Off Grand Concourse. Ça veut dire quoi? Je sais que c'est en lien avec le Bronx où vous avez grandi, mais quel est le sens de ce titre pour vous, Jerry Schatzberg?
Je crois que tous autant que nous sommes, nous apprenons beaucoup de choses. Si vous regardez des petits-enfants, ils sont sans arrêt à l'affût de choses à apprendre. Et les gens avec qui on joue, les gens avec qui on communique vous apprennent tous quelque chose. Et Grand Concourse, et c'est en fait une allusion à Off-Broadway. Et Off-Broadway, on peut monter une pièce qui n'est peut-être pas parfaite, mais on fait des expériences et on se lance. Et moi, je crois que pas mal de mes photos sont des expériences, des tests. Je recherche la bizarrerie. Et du reste, j'avais une société qui s'appelait Off Grand Concourse et je garde ce titre. Le Grand Concourse, c'est une idée d'ailleurs d'un Français. Il était question que ce soit comme les Champs-Élysées aux États-Unis, mais évidemment, il manque une petite chose, un détail aux Américains par rapport aux Français, c'est la culture.
Qu'est-ce que vos photos doivent à ce quartier? Qu'est-ce que vos photos doivent au Bronx?
En réalité, je vous parlais de bizarrerie, c'est ça. C'est ça l'élément. Moi, j'aime bien que le sujet ou les sujets soient réels, mais dans la photo, il y a toujours une petite touche de bizarrerie. Par exemple, l'une des photos préférées de Bob Dylan, c'est une photo où on le voit où il se couvre le visage de la main. La plupart des photographes diraient non, enlève ta main, on ne voit pas ton visage. Moi, ça me plaît cette photo, et du reste, c'est une de mes photos qui a le mieux marché.
Parce que vous avez été presque, on pourrait dire, le photographe historique de Dylan, on va y revenir. Vous avez commencé par la photo de mode, en fait, Jerry Schatzberg, où vous avez là encore révolutionné le genre, puisqu'à l'époque, on posait, les mannequins posaient, et vous, vous les avez mis en mouvement. Ça a été bien perçu à l'époque?
J'ai fait ça dès le début, oui, c'est vrai, mais je me souviens d'une session pour Vogue et le directeur artistique Alex Lieberman m'a dit « Les vêtements, tu vas voir, sont très étranges et on voudrait des formes très particulières. » Donc moi, j'écoutais attentivement et puis il parlait des formes, des vêtements et ainsi de suite. Il me parlait de cha-cha-cha. Ça a été une inspiration pour moi parce que moi, une fois par semaine, je me rendrais au Palladium, là où on dansait à l'époque. Et là, je voyais l'élégance des danseurs, des danseuses, peu importe leur silhouette, hein, mince ou non. Et donc, je me suis dit, je vais travailler là-dessus. Donc, j'ai fait appel à des danseurs de West Side Story. Je les ai fait danser et je demandais aux mannequins de faire la même chose. Je donnais des accessoires, une petite glace à la main ou alors un bâton de rouge à lèvres. Et les modèles s'inspiraient des danseurs.
C'est ce que l'on peut voir dans l'exposition. Alors, il y a aussi, bien sûr, on vous connaît, Jerry Schatzberg, pour les portraits d'artistes, de chanteurs notamment. Et quand on vous a demandé des sons, bien sûr, vous avez choisi des chansons. They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Qu'est-ce que cette chanson et qu'est-ce que Dylan représente pour vous, Jerry Schatzberg, pour avoir choisi cette chanson précisément?
Il y avait deux femmes qui n'arrêtaient pas de me dire « T'as écouté Bob Dylan ?» Et c'est vrai que j'écoutais du Bob Dylan, mais j'écoutais en même temps que je faisais des photos. Et je me suis jamais vraiment intéressé aux textes poétiques. J'écoutais Dylan chanter des chansons, c'est tout, et ça me plaisait déjà. Et un jour, je faisais un shoot avec un journaliste de rock dans mon studio, et la conversation portait sur Dylan qu'ils avaient vu en concert la veille. Moi, je le connaissais pas personnellement. Hein. Et puis, en écoutant, et je leur ai dit, bah, la prochaine fois que vous voyez Dylan, dites-lui que je voudrais bien prendre des photos. Le lendemain, son épouse m'appelle. Elle me dit, Bob est là, tu veux prendre des photos de lui? Et j'ai dit, oui, j'adorais. Elle m'a donné l'adresse où il était en train d'enregistrer Highway 61, je m'y rends, et il m'a accueilli comme si j'étais un vieux copain. Et il m'a dit, tiens, écoute ça. Il a joué ce qu'il venait d'enregistrer, et son épouse, c'était la femme qui, 5 ans auparavant, m'avait dit, eh ben, tu ferais bien d'écouter du Bob Dylan. Vous voyez?
C'était un modèle facile. Il aimait être pris en photo.
Ah oui, très facile. D'abord, c'est quelqu'un de particulièrement intelligent. Il adore s'amuser. Et Il est très sensible au travail des journalistes et des photographes. S'il vous accorde sa confiance, il n'y a aucun problème.
Vous avez réalisé la pochette de son album, Blonde on Blonde. Elle a une histoire, cette pochette, cette photographie, en 1966.
J'ai fait la première session dans un studio d'enregistrement. Donc là, il maîtrisait tout. Hein. Et moi, je voulais maîtriser un peu plus de choses moi-même. Hein. Mais les photos étaient bonnes, elles ont plu, et son manager m'a demandé si je voulais bien faire une couverture. Peut-être pas tout de suite, mais à terme. Et j'ai dit oui, bien sûr, j'adorerais. Et je ne savais pas exactement quoi faire, mais j'ai commencé à travailler, moi, dans mon studio, des séries de photographes. J'avais des photos de lui qui étaient pas mal, mais il n'y avait rien de très particulier dans ces photos. Pas suffisant pour une couverture d'album. Donc je lui ai demandé s'il voulait bien aller dehors avec moi pour que je prenne des photos. Et je me souviens d'un quartier qui était le quartier des Bouchers à New York. Il avait une petite veste, alors qu'il faisait froid. En février, à New York, il fait froid. Et moi-même, j'avais une petite veste, parce que moi, je n'avais pas porté une grosse doudoune, si lui, il avait une petite veste. Bref, mais pendant le shoot, moi, je tremblais de froid. Et les photos étaient un peu floues, mais Bob Dylan, lui, il aimait bien les photos où je tremble un petit peu et où qui sont très légèrement floutées.
Et c'est l'histoire de cette pochette. Alors, on parle de pochette, je regarde la couverture du catalogue de l'exposition à Chamarande. C'est Zappa avec des couettes. C'était quoi l'idée? Frank Zappa avec des couettes, Jerry Schatzberg.
J'avais fait une photo des Rolling Stones, habillée en femme. Hein. Zappa a vu la photo.
Il s'est dit pourquoi pas.
Il m'a appelé. Et moi, a-t-il dit, moi aussi je veux faire ça. Sauf que Zappa, lui, il voulait être habillé en femme et il voulait un mélange de ça avec la photo de Sgt. Peppers. Mais au lieu de fleurs, il voulait des légumes, des détritus, des choses comme ça, tout un truc. Typiquement Zappa. Mais cette photo-là de la couverture a été prise après que j'ai fait la couverture. Et j'ai dit à Zappa, mais je voudrais bien prendre des photos de toi tout seul. Voilà.
Il y a Catherine Deneuve aussi dans l'exposition, une des rares actrices françaises à être présente dans vos shootings. Quel est le sens de cette présence et de cette photographie? C'était à quel moment, en fait?
À la fin des années 50, je crois. Je me souviens pas exactement, mais c'est Esquire qui m'a demandé de prendre les photos de cette étoile montante. Je suis allé à sa rencontre.
65. Ah ouais. Je regarde la date hein, dans le catalogue.
Moi, je ne sais même pas ce que j'ai eu pour le petit déjeuner ce matin. Donc, si vous le dites, ça doit être vrai.
On est deux.
Bref, elle devait aller chez le coiffeur. Et je lui ai dit, est-ce que je peux vous accompagner chez le coiffeur? Donc, nous allons chez le coiffeur, on lui fait un shampoing, elle fumait une cigarette. Et j'ai dit, est-ce que je peux vous prendre en photo? Et elle m'a dit, oui, allez-y.
C'était aussi simple que ça à l'époque. Parce que maintenant, c'est plus possible hein, de ce genre de photographie.
Moi, j'espère que moi, je pourrais, si, pourquoi pas.
Juste une dernière question, peut-être, Jerry Schatzberg. Qu'est-ce qui vous a poussé du côté de la photographie? Ce n'était pas du tout l'histoire familiale. Votre père était fourreur. On est à New York.
En réalité, j'ai été pas mal influencé par mes parents, parce que, comme vous l'avez dit, mon père était fourreur, j'y travaillais, et je détestais ce boulot. Et je prenais des pauses déjeuner 2 heures, et mon père comprenait pas pourquoi il me fallait autant de temps pour déjeuner. J'avais des oncles qui travaillaient à l'usine, qui bouffaient des sandwichs. Bref, donc, lors de mes balades, je suis tombé sur un magasin de photos, et puis j'ai vu une petite annonce dans le New York Times. Assistant photographe. Recherche assistant photographe. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, j'y suis allé. Donc je l'ai contacté, le gars a rigolé, et puis il m'a dit, je vais t'envoyer quelque part. Donc je suis arrivé dans un endroit, un studio absolument incroyable, un endroit comme j'avais pas pu imaginer que ça existait, mais en réalité, ils ne pouvaient pas me payer. Moi j'étais marié, j'avais 2 enfants. Donc, j'ai mis cette idée de côté. J'ai fait autre chose. Et puis, j'ai fait des photos de bébés. Vous savez, pour les sociétés qui vendaient des couches culottes, il y avait un photographe qui prenait des photos de bébés dans la maternité. Et mon oncle m'a dit, mais c'est très idiot de faire ça, tu gagnerais jamais la vie. On gagne 2 $ par bébé. Et combien de poses? On peut faire 10 poses de bébé par jour, ça fait 20 $ par jour. Mais alors qu'avant, je peux gagner 25. Donc, non, 25 par semaine, pardon, ça me revient, oui. Donc j'ai dit, non, c'est pas un très bon plan finalement. Mais j'ai quand même vendu les photos de bébé pendant un an, puis j'ai rappelé le même type de l'annonce. Il s'était souvenu et il a à nouveau rigolé, puis là, il m'a donné un vrai boulot. Et j'ai travaillé pour un photographe pendant 2 ans et demi à partir de là. C'est ça que ça a commencé.
C'est comme ça que tout a commencé. Et on peut le vérifier au domaine de Chamarande à partir de lundi jusqu'au 1er septembre. Jerry Schatzberg, vous restez encore avec nous. On va parler nouveautés musicales. Avec Marion Guilbeault.
Quel genre de musique joue-t-on en général chez vous?
Oh, on n'est pas difficile. Ici, on aime tous les genres. Country, western.
Vous êtes des policiers?
Non, madame. Des musiciens.
Marion, les nouveautés de la semaine?
Le nouveau Dylan, le nouveau Zappa, les nouveaux Stones, ils sont peut-être dans les nouveautés nouvelles, qui sait? On commence avec un événement, ça se passe la semaine prochaine à Nîmes, pendant le week-end de l'Ascension. Tout le gratin du rock indé a rendez-vous là-bas à Laurencé, où c'est au festival This Is Not a Love Song, Tinals pour les intimes. On adore la chanson de John Lydon et on adore aussi la programmation de ces 3 jours. Aldous Harding, Courtney Barnett, James Blake, Fatwood Family, que des artistes dont on vous dit le plus grand bien sur France Inter et dans ces nouveautés nouvelles alors. Et pour une date unique en France, c'est pour ça aussi que j'insiste sur ce festival, c'est quelqu'un dont la musique nous séduit autant qu'elle nous intrigue, c'est Mormor. Alors Mormor, c'est le pseudo de Seth Nyquist, il est chanteur, compositeur, producteur, il est basé à Toronto et à 26 ans, ben voilà, il est le nouveau messie de la pop indé. Et il distille sa musique chanson après chanson comme s'il voulait nous habituer progressivement à son falsetto délicat, à ses compositions éthérées mais puissantes. Dans l'ADN musical de Mormor, les Beatles côtoient le Wu-Tang Clan et c'est d'ailleurs une des forces de sa musique d'être aussi mouvante comme ça. Son autre atout, c'est son écriture sophistiquée, nostalgique, romantique. Des chansons qui permettent d'affronter tous les démons et de sortir enfin de l'hiver. Outside, Mormor, c'est un des artistes à ne pas lâcher en 2019. C'est extrait de son nouvel EP Someplace Else. C'est disponible sur le label Cobalt. Il est en concert unique en France. C'est au festival Tinals à Nîmes le 1er juin. Jerry Schatzberg, les Stones, les Beatles, Zappa, Dylan. Qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui?
Moi, j'écoute de la musique des années 60 surtout. Et aussi de la musique classique. J'aime bien écouter du rap, mais le rap, j'arrive pas à chanter en même temps, bizarrement.
C'est une histoire de flow, ça. C'est juste ça. On poursuit avec Aldo. Aldo, c'est le nom d'un duo brésilien. C'est formé par les frères Faria, André et Moura. Et c'est un binôme qui porte une histoire familiale digne d'un de vos films, Jerry Schatzberg. Parce que la première chose à savoir, ils se sont appelés Aldo. Pourquoi? En hommage à leur oncle. Et leur oncle, c'est un personnage haut en couleur. Il a fait les 400 coups au Brésil dans les années 90. Course de voiture illégale, deal dans les favelas de Sao Paulo, bagarre alcoolisée. Voilà des expériences qui forment la jeunesse hein, et qui ont inspiré ces deux musiciens de neveux. Il aura fallu quand même la bénédiction du tonton pour mettre en musique cette période tumultueuse de sa vie parce que depuis, eh ben, le tonton il s'est amendé auprès de l'église. Alors l'histoire ne dit pas s'il a voté Bolsonaro aux dernières élections. Mais en tout cas, les chansons d'Aldo, elles, ne donnent pas dans le repenti ou dans la contrition. Elles sont réjouissantes au plus haut point. On fait connaissance tout de suite avec la gangsta pop d'Aldo.
Bye.
Aldo, Trembling Eyelids chez Full Time Hobby. Un album est à suivre, donc on profite et on réécoute ce même titre en boucle, Laurent. On revient dans l'Hexagone ?
On revient dans l'Hexagone.
Allez, avec Bastien l'Allemand sur un territoire arpenté avant lui par Dominica, par Miossec. Un territoire instable entre rock lettré et chansons grises. Bastien l'Allemand, il a déjà publié 4 albums solo, mais ces derniers temps, il s'était fait plutôt remarquer avec ses siestes acoustiques où il réunit autour de lui tout un aéropage d'artistes prêts à jouer le jeu de l'impro, de l'acoustique, de l'abandon, parce qu'on s'allonge pendant ses siestes pour écouter au choix Albin de la Simone, Camélia Jordana, Bertrand Belin, Vanessa Paradis, bien d'autres. Et entre deux siestes, Bastien l'Allemand se réveille, continue de creuser son sillon d'observateur naturaliste avec des chansons qu'il regarde souvent par la fenêtre. Sur son nouvel album qui sort demain, on retrouve sa voix grave, son chanté nonchalant, une ligne musicale claire, portée par ses amis les films d'El, J.P. Nataf, Babix et Seb Martel. C'est un enregistrement à l'ancienne, à l'analogique, une pratique artisanale assumée et des titres qui donnent envie de se mettre en mouvement.
Certains disent que tu es rentré. Ils disent que tu as changé. Ne feras plus danser les filles. Ne feras plus danser les filles. C'est à peine ils t'ont vu, me disent s'ils t'ont reconnu, que ton ombre marchait devant, mi-homme, mi-revenant, ne fera plus danser les filles. Ne fera plus danser les filles. D'aucuns pensent plus rien à faire. La lumière, qu'il était beau avant la guerre, ne fera plus danser les filles, ne fera plus danser les filles, ne fera plus danser les filles. 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 Ne fera plus. Ne fera plus danser les filles. Ne fera plus danser les filles.
Danser les filles, une invitation de Bastien l'Allemand, un extrait de son nouvel album. Il sera en sieste acoustique à la Maison de la Poésie à Paris le 26 mai, en concert au Studio de l'Ermitage à Paris le 31 octobre. Programmation très chanson française de Marion Guilbeault. Merci Jerry Sasberg, merci Xavier Combes pour cette interprétation. Le NRV première partie, c'est fini. On se retrouve, non pas dans 15 minutes, mais dans 25 minutes après le journal et les spots officiels de campagne des élections européennes avec ça.
Thank you.
Ah, c'est dingue, ce son. Le web à 30 ans, Internet de l'utopie au cauchemar. Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.